Bonsoir.
Bonsoir
Bonsoir.
les internautes, puisque ce soir nous avons la dixième conférence de l'Institut d'astrophysique à distance. Donc je me chauffe un peu, ça fait toujours un peu bizarre de parler devant un écran, alors qu'on sait qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui vous écoutent, qui vous regardent. Voilà, mais enfin, cette année nous avons, je crois, 14, c'est la 14e conférence. Certaines conférences avant le confinement avaient lieu à l'Institut d'astrophysique de Paris. Maintenant, eh bien, on passe par le virtuel. Voilà. Mais ça nous permet aussi d'inviter des orateurs qui ne sont pas forcément dans la région parisienne. Et je vous présenterai Joël Vernet tout à l'heure. J'ai juste une petite annonce à faire avant pour vous dire que le 5 janvier, la prochaine conférence aura lieu le 5 janvier. Elle sera donnée par François Boucher. François Boucher est le nouveau directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris. Il prendra ses fonctions le 1er janvier et on lui a demandé s'il était d'accord pour nous faire une conférence. Il a accepté volontiers. Ce sera pour lui l'occasion, bien effectivement, d'expliquer ce qu'il fait et les orientations qu'il donne, qu'il entend donner avec notre participation, évidemment, à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et le sujet de sa conférence sera la cosmologie aujourd'hui, deux points, réponses et questions. Moi, j'aime bien les conférences qui posent des questions. Et voilà, on sait bien que la science ne se contente pas d'accumuler des savoirs, mais quand elle le fait, eh bien, elle fait toujours face à de nouvelles questions et de nouveaux problèmes. Voilà. Donc ça, ce sont les annonces. Donc bienvenue tout le monde et je présente Joël Vernet. Joël, est-il là?
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Bonsoir Joël. Donc Joël se trouve en ce moment à l'ESO, qui est l'Observatoire européen de l'hémisphère sud, dont les télescopes se trouvent évidemment au Chili, mais le dispositif scientifique, le centre scientifique est opérationnel. Est à Munich, à Garching plus exactement, donc à Munich. Joël donc, a travaillé à Munich depuis, je crois, 1995 à peu près, où il a fait une thèse sur l'étude des galaxies actives, ce qu'on appelle les AGN, les galaxies à noyaux actifs, qui sont des galaxies dans lesquelles il y a des trous noirs et il y a de nombreux phénomènes extrêmement intéressants à comprendre et à explorer, en particulier un trou noir qui est actif et grâce auquel eh bien, on peut observer des phénomènes extrêmement violents. Et il a étudié ces objets-là, en particulier les radiogalaxies, en utilisant le Keck, qui est un télescope de 10 mètres de diamètre, qui était le plus grand à l'époque, bien avant que l'ESO se dote d'un télescope de grand diamètre, qui est évidemment le VLT, dont vous avez, je pense, pour la plupart entendu parler, qui est une série, une batterie de quatre télescopes de 8,20 m de diamètre chacun. Le miroir de chacun fait 8,20 m de diamètre, et l'originalité de ces télescopes étant que chaque miroir est un miroir, un simple miroir, un miroir unique, et non pas un miroir segmenté. Mais là, j'anticipe un petit peu sur ce qui va être dit, j'imagine. Puisque Joël va nous parler d'un nouveau projet, le projet du ELT. Autrefois, on appelait ça EELT, c'était le European Extremely Large Telescope, si je me souviens bien. Maintenant, on a réduit EELT, qui est un projet voilà, qui me fascine personnellement. C'est pour ça que nous avons eu l'idée d'inviter Joël. Je vais m'arrêter là, hein. Je vais te donner la parole, Joël, pour que tu nous racontes l'histoire de ce projet et ce que l'on pourra faire avec dans les années qui viennent.
Eh bien, donc, à nouveau, bonsoir à tous. Merci Daniel pour cette introduction et surtout pour me donner l'occasion de vous parler de ce projet absolument fascinant qui est l'ELT. Donc, l'ELT, comme l'a dit Daniel, Extremely Large Telescope, c'est le plus gros télescope du monde, actuellement en construction dans le désert de l'Atacama, au Chili, sous l'égide de l'ESO. Donc l'ESO, comme Daniel l'a dit, c'est l'Observatoire européen austral. Notre rôle, c'est de construire et d'opérer des télescopes pour l'Europe au Chili. Évidemment, la construction de ces télescopes ne se fait pas seule, elle se fait en partenariat avec les entreprises et les instituts de recherche dans les différents, dans les 15 pays membres de l'ESO. Donc ce soir, je vais essayer de vous montrer, sans entrer non plus dans tous les détails, les liens entre les motivations scientifiques, la recherche de pointe, pour répondre, comme le disait Daniel précédemment, aux questions les plus pressantes sur notre univers, et les technologies de pointe qui sont mises en jeu dans ce télescope. Alors, avant de vous parler de tonnes d'acier, de polissage, de nanomètres, de milliards d'années-lumière aussi, on peut passer juste quelques instants à nous interroger sur les motivations d'un tel projet. Pourquoi faire un aussi grand télescope? Et finalement, c'est une question qu'il faut se poser dans la construction de n'importe quel grand équipement scientifique qui coûte cher. Et donc l'astronomie a un peu une place à part. C'est vraiment une science de très grandes questions, des questions fondamentales. Alors, j'en ai mis quelques-unes, mais il y en a plein. Vous en êtes posé, je m'en suis posé, je m'en pose. La Terre est-elle unique? Y a-t-il de la vie ailleurs? Comment est apparue la vie sur Terre? La planète Terre est-elle unique? On peut se poser des tas de questions, il y en a beaucoup. Finalement, je voulais revenir à ces questions parce que l'ELT, alors j'allais dire peut-être plus que d'autres projets, mais sans doute pas, est vraiment porté par des grandes questions presque philosophiques. Et une des questions clés que nous verrons un peu plus tard, sur lequel je reviens, c'est y a-t-il de la vie ailleurs? Et ça, c'est une des grandes questions dimensionnantes du projet. Voilà. Alors, on va faire un tout petit historique, pas très long. L'homme a toujours observé le ciel, à l'œil nu depuis la nuit des temps, et toujours maintenant d'ailleurs. Comment ne pas s'interroger en regardant le ciel? Pour moi, ça a toujours été le cas et ça l'est pour nombre d'entre vous, je le sais. Et il y a une date dans l'observation du ciel qui reste, c'est 1609, quand Galiléo, pour la première fois, a utilisé sa lunette d'un peu moins de 4 cm de diamètre à l'époque, pour observer la Lune et la planète Jupiter. Il nous a laissé des dessins magnifiques dans ses cahiers. Et cet instrument a changé à jamais l'histoire de l'observation astronomique. Alors, il y a eu énormément d'évolutions. Je vais vous donner quelques dates. En 1845, le télescope de Ross, presque 2 mètres de diamètre, c'était énorme pour l'époque. Il a d'ailleurs été le plus grand télescope jusqu'en 1917, quand il a été détrôné par le télescope du Mont Wilson, le Hooker Telescope, de 100 pouces, 2,5 mètres de diamètre. Alors ce télescope-là a un rôle particulier dans l'histoire, parce que, entre autres, il a permis de découvrir, de montrer que l'univers est en expansion. Donc il a vraiment un rôle important. Et ce télescope est resté le plus grand jusqu'en 1948, pas 45 comme je l'écris, 48, quand le télescope de Hale, donc le 5 mètres du Mont Palomar, est entré en service. Télescope a, il faut bien comprendre, le télescope du Mont Palomar a révolutionné la science, certes, mais aussi la technologie mise en jeu dans la fabrication des télescopes. Il y a plusieurs techniques qu'on utilise d'ailleurs encore toujours aujourd'hui par rapport à luminiser les miroirs. Donc, il est resté le plus grand télescope jusqu'à 6 mètres BTA de Zelenchuk, le russe, et surtout jusqu'en 1993, quand les télescopes Keck, dont Daniel vous a parlé avant, sont entrés en service. Cinq ans plus tard, l'Europe mettait en service en 1998 le VLT, le premier des VLT, premier d'une suite quatre télescopes, toujours en service actuellement, à l'ESO, au Chili. Alors, on montre souvent ce diagramme, c'est un peu le diagramme de Moore, mais pas pour les ordinateurs, pour les télescopes. Ça vous montre les progrès au fil du temps du diamètre des télescopes. Alors voilà, là c'est à l'œil nu, quelques millimètres. La lunette de Galilée, quelques centimètres, 4 centimètres. Et puis voilà, télescope, premier télescope réflectif de Newton. Et bon, télescope de Ross, Mount Wilson, Mount Palomar, dont je vous ai parlé. Et ce dont on va parler aujourd'hui, eh bien, c'est les nouveaux géants du ciel, l'ELT. Et alors, l'ELT, comme je vous montrais, n'est pas évidemment pas le seul projet de très grand télescope. Il y a trois projets actuellement de très grands télescopes dans le monde. Celui que j'entoure là, l'extrêmement large télescope dont je vais vous parler ce soir, le TMT de 30 mètres et le GMT, le Giant Magellan Telescope. Vous voyez donc là le numéro du GMT, la numéro de l'ELT et la du TMT. Ce qu'il faut bien avoir, je vais vous montrer dans cette diapositive, c'est que le miroir de l'ELT, il a une surface qui est supérieure à la surface de tous les autres télescopes actuellement en service, mis ensemble. Vous avez une idée du pas de géant qu'on est en train de faire. Et ce pas de géant ne se fait pas sans difficultés techniques, comme je vais essayer de vous le montrer. Alors, on est obligé de se poser la question, mais pourquoi a-t-on besoin d'un télescope toujours plus grand? Alors, il y a deux raisons, une qui est très simple à comprendre, une qui est peut-être un peu plus compliquée. La première, c'est que plus la surface du miroir principal est grande, plus on collecte de lumière. Et donc, la quantité de lumière qu'on collecte des astres qu'on observe varie avec le carré du diamètre, ce qui est déjà pas mal. Mais il y a un autre effet. L'image d'un point n'est pas un point à travers un télescope, c'est une tache de diffraction. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour certains d'entre vous, de vos cours de physique, ou bien certainement les photographes savent exactement de quoi je parle. Donc, cette tache de diffraction, elle a une surface qui est proportionnelle au carré du diamètre du télescope, inversement proportionnelle au carré du diamètre du télescope. Alors, pourquoi c'est important? Très important, parce que plus le télescope est grand, plus les détails que l'on peut distinguer sont fins, c'est déjà un aspect, mais en plus, plus le signal est concentré. Et quand on concentre le signal, on gagne en sensibilité, parce que la densité de flux par unité de surface sur un pixel, par exemple sur nos détecteurs, maintenant ne va pas varier comme la puissance au carré du diamètre, mais comme la combinaison de la collection de lumière et de la concentration, donc comme le diamètre à la puissance 4. Donc ça, c'est vrai, sauf que on a un léger problème sur Terre, c'est qu'il y a l'atmosphère et la turbulence. L'atmosphère floute nos images, vous le connaissez bien, vous le savez, vous le voyez quand vous voyez les étoiles scintiller qui bougent. L'atmosphère a un effet majeur sur nos observations. À tel point que, attendez, je vais essayer de stopper ça. Oh, je n'arrive pas à stopper l'animation. Si, voilà. Donc, à tel point que si on ne corrige pas des effets de turbulence de l'atmosphère, eh bien, un télescope, si grand soit-il, a environ la résolution d'un télescope de 12 cm, c'est-à-dire une seconde d'arc, qui est limitée par ce qu'on appelle le CIM. Et donc, depuis les années 1950, le concept a été évoqué, et il a fallu beaucoup de temps pour que les avancées technologiques nous permettent vraiment de le faire. Alors, dans cette animation, si elle veut bien repartir, elle ne veut pas repartir. Je vais essayer de revenir en arrière. Voilà. Donc ça, vous montre, voilà, si on ne corrige pas les effets de la turbulence de l'atmosphère, vous voyez que le fond d'onde qui arrive d'une étoile est perturbé comme ça par... J'essaye de stopper l'animation, petit problème technique, ça ne marche pas. Voilà, c'est pas grave. Donc, le fond d'onde est perturbé par l'atmosphère. Il atteint notre télescope et... Je n'arrive pas à faire partir l'animation. C'est pas grave, je vais vous l'expliquer sans, sans l'animation. Donc, le fond d'onde est perturbé par, par l'atmosphère et rend nos images floues. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde une étoile avec ce qu'on appelle un analyseur de fond d'onde. On calcule quelle a été la perturbation créée par l'atmosphère sur l'image de l'étoile, ce qui nous permet d'envoyer un signal pour contrecarrer l'effet de turbulence de l'atmosphère, la distorsion de notre onde, et de la compenser presque parfaitement. Ce qui nous permet maintenant, avec l'optique adaptative, d'avoir des images, même sur Terre, quasiment parfaites. Alors, sur cette image de réalité que vous voyez, il y a quelque chose en plus que vous voyez, qui sont les lasers très brillants qui partent, j'en parlerai un peu plus tard. Ce qu'on utilise maintenant pour faire de l'optique adaptative, ce n'est pas seulement d'observer des étoiles naturelles, mais on observe aussi des étoiles laser. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais je tenais à vous expliquer pourquoi il y a des lasers sur le télescope, sur cette image. Donc, venons-en à l'ELT, le télescope lui-même. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le plus gros télescope optique et infrarouge du monde. Alors, je précise ici optique et infrarouge, parce que ce télescope, par exemple, n'observe pas dans les ondes radio, à grande longueur d'onde, ou dans les rayons X, ou dans l'infrarouge lointain.
Il y a quelqu'un qui demande la différence qu'il y a entre résolution et sensibilité.
Alors, la résolution, c'est la capacité à voir des détails sur une image. La sensibilité, c'est la capacité à détecter des objets faibles. Voilà. Donc, avec l'ELT, on gagne sur tous les tableaux. En général, plus on a un grand télescope, s'il est équipé d'une optique adaptative pour corriger des effets de l'atmosphère, alors effectivement, on gagne sur tous les tableaux. Voilà. Donc oui, n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat, comme ça Daniel peut m'interrompre quand il y a quelque chose de pas clair et je peux tirer les choses au clair immédiatement. C'est encore mieux plutôt que d'y revenir au moment des questions plus tard. Donc, télescope optique et infrarouge, le plus grand du monde, avec un miroir primaire de 39 mètres de diamètre. Alors, c'est un monstre, c'est un télescope adaptatif dans le sens où il a une optique adaptative intégrée. Il pèse le télescope seul 3400 tonnes. Il est sous une coupole de 100 mètres de base, même 115 mètres pour être plus précis, et de 85 mètres de haut, comme une cathédrale.
On peut mettre l'arc de triomphe dessous, je crois, non, c'est ça? Ou oui, dedans, ou à côté?
L'arc de triomphe est petit à côté.
Qu'est-ce qui est petit?
L'arc de triomphe, oui.
Ah oui, d'accord. Oui,
oui. Alors je ne l'ai pas mis. Je pourrais vous en montrer plus tard, au moment des questions, si vous voulez des comparaisons de taille. Je le ferai plus tard. Donc, le télescope est actuellement en construction. La construction a commencé au Chili, sur le mont Cerro Amazonas. Je vous montrerai aussi plus tard. Il coûte environ 1,2 milliard d'euros. Alors, pour mettre en perspective, c'est à peu près le prix.
Combien?
1,2 milliard d'euros. C'est à peu près le prix d'une centrale nucléaire ou d'une vingtaine de rafales. Ou plus simplement, peut-être, qu'est-ce qui est proche de vous, 70 km environ au coût moyen de la ligne de TGV. Voilà, pour mettre en perspective. Alors, pourquoi construit-on un si grand télescope et qu'est-ce qu'on peut découvrir avec l'ELT et plus généralement avec, les nouveaux très grands télescopes? Alors, quand on prépare un projet de cette envergure, bien sûr, On ne se dit pas juste qu'on veut faire un télescope plus gros, on écrit, on détaille les buts scientifiques, on consulte, on fait beaucoup de comités, pas mal de politiques, il faut convaincre, il faut avoir les budgets, c'est long, ça a pris pour le LT, ça a pris beaucoup d'années, parce que le LT était dans les cartons, hein, déjà dans la tête de beaucoup de gens quand le VLT est rentré en service. Et cette étape est très importante. Mais l'étape de la réflexion sur les buts scientifiques est aussi extrêmement importante et j'insiste là-dessus parce qu'elle oriente très fortement les choix techniques, comme on va le voir dans quelques instants. Alors, je vais vous proposer un tout petit voyage cosmique pour découvrir quelques-unes des grandes questions de l'astrophysique à laquelle l'ELT devrait permettre de répondre, de faire des avancées majeures.
Joël,
Oui.
excuse-moi, je t'arrête. Je ne sais pas pourquoi le direct s'est arrêté alors que depuis mon ordinateur, tout semble fonctionner, mais
Moi aussi.
YouTube ne reçoit plus rien. Alors maintenant, ça y est, ça a l'air de repartir tout seul. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rien fait. J'ai juste pris la parole, donc bon, repart alors.
D'accord.
Excuse-moi. Donc, il y a des choses que tu as dites qui n'ont pas été entendues. Il y a à peu près pour, je dirais, 1 minute.
D'accord. Alors, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Je parlais des aspects, plus des aspects financiers et politiques derrière le projet. Donc, on peut sauter et on va attaquer directement les aspects scientifiques. Et donc, je disais, ce qui est important, je vais vous détailler quelques buts scientifiques, pas pris au hasard. Et certainement, ce ne sera pas exhaustif, ce n'est pas le but. C'est pour vous montrer comment ces buts scientifiques ont dimensionné le design du télescope. Alors, l'ELT va permettre des avancées majeures dans tous les grands domaines de l'astrophysique. Système solaire, exoplanètes, physique stellaire, formation des galaxies, cosmologie, physique fondamentale. Et à peu près tous les domaines. Et ça, en soi, c'est déjà un aspect important. Et c'est un des grands challenges de l'ELT, c'est de servir une communauté de chercheurs qui est vaste, avec des attentes très différentes, qui parfois, en termes techniques, vont être même antagonistes dans certains cas. Et il faut arriver à faire un grand compromis pour arriver à servir tout le monde, à avoir un soutien de tout le monde et pouvoir répondre à une très 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 vaste panoplie de questions. Alors, on va commencer, ça va peut-être surprendre certains, par le système solaire. Enfin, l'ELT, c'est important de le dire, n'est pas seulement fait pour explorer les galaxies les plus faibles, les univers lointains, ou même simplement les planètes extrasolaires. La science avec l'ELT commence vraiment dans notre voisinage immédiat, avec le système solaire. Je voulais prendre un exemple pour illustrer les progrès en termes de résolution que va apporter l'ELT. Là, vous voyez une image de Io, qui est donc un des satellites de Jupiter. Et l'image que vous voyez, c'est une image qui a été prise avec l'instrument NACO au VLT dans les années 2000. Qui était vraiment le top à l'époque, cet instrument français d'ailleurs, d'optique adaptative, a fait cette magnifique image à l'époque. Et là, je vous montre le même satellite Io, mais tel qu'il sera observé avec l'ELT. Les détails visibles sur cette image, ou sur l'image qu'on aura de Io, sont de l'ordre de la dizaine de kilomètres. Io, en effet, est un satellite qui prend le champ à environ 1,2 secondes d'arc. Son diamètre est de 3100 km et il est à 600 millions de kilomètres. Donc, on devrait pouvoir atteindre, quand Jupiter est au plus proche de la Terre, des détails d'une dizaine de kilomètres. Et cette résolution, en réalité, c'est une résolution qui est assez proche de celle des sondes spatiales, sauf celles qui vont vraiment très près ou qui se posent évidemment sur les différents objets du système solaire, mais Clairement, l'ELT va être en pleine complémentarité avec ces sondes spatiales. Et ce qu'il va permettre, notamment dans le système solaire, c'est le suivi, par exemple, entre autres, de l'activité volcanique sur un satellite. Et ça, c'est la première fois qu'on pourra le faire dans de tels détails. Alors, une contrainte technique que pose ce genre d'observation, et en général l'observation des objets du système solaire, les comètes, les transneptuniens et autres, c'est la vitesse de suivi du télescope. Un télescope de 3 400 tonnes, vous doutez bien que ce n'est pas facile à bouger rapidement. Et donc, pouvoir suivre des objets qui sont proches de nous et qui ont un mouvement propre rapide est une très très forte contrainte sur les structures du télescope. Alors, bien sûr, si on s'éloigne un petit peu, un des buts, comme je vous l'ai déjà dit, sans doute les plus excitants de l'ELT, c'est la recherche de planètes jumelles de la Terre, les exoterres. Ce but que nous nous sommes fixés est évidemment un des plus difficiles à atteindre. Il faut, comme vous le voyez écrit, atteindre ce qu'on appelle un contraste énorme d'environ 1 milliard entre l'étoile très 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 brillante autour de laquelle tourne la planète et la planète que l'on veut étudier qui va se trouver à seulement un dixième de seconde d'arc. Alors, je vais vous expliquer un peu plus tard, plus loin, mais je voulais avant ça illustrer un contraste de 1 milliard entre l'objet étudié et l'étoile à 1 à 0,1 seconde d'arc de l'étoile veut dire. Voilà, ici je vous montre, donc ça c'est un projecteur de stade de football, vous voyez, bien brillant. Vous prenez une petite LED, vous la mettez à 10 cm de ce projecteur, vous l'envoyez à 200 km et vous essayez de faire une image de la petite LED. C'est exactement le genre d'exercice fou qu'on va essayer, plus qu'essayer de faire,
Bon,
avec l'ELT. Alors, cette contrainte, 0,1 seconde d'arc, contraste d'un milliard, elle vient pas, elle n'est pas du tout arrivée au hasard, évidemment. Elle vient de ce diagramme que je vous montre ici, qui montre pour une planète, donc la distance à l'étoile, ici, et là, la taille d'une étoile. Alors là où nous, on va chercher potentiellement des traces de vie, c'est ce qu'on appelle dans la zone habitable. Donc, ce que vous voyez là, en bleu clair, ce qu'on appelle la zone habitable, en gros, pour faire simple, plus l'étoile est brillante, plus la zone habitable est éloignée ici de l'étoile. Ici, vous voyez la Terre qui est, ici on est en unité astronomique, l'unité astronomique c'est 150 millions de kilomètres, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, donc ce n'est pas étonnant qu'ici, dans ce diagramme, la Terre soit à 1. Et donc, si on cherche des planètes comme la Terre, donc en zone habitable, des planètes telluriques, donc avec un sol solide, sur lesquelles on peut avoir de l'eau liquide, c'est un des critères. Il faut atteindre les contrastes et la résolution dont je vous ai parlé. Avec l'ELT, non seulement on va chercher à observer, à faire l'image des planètes, mais peut-être encore plus intéressant, certainement encore plus intéressant, pour trouver des traces de vie, il va falloir faire de la spectroscopie pour espérer, donc comme vous voyez là, pouvoir trouver des traces d'indication qu'il y a une vie sur la planète. Et en général, en gros, l'idée, c'est de trouver une atmosphère qui est en déséquilibre, qui n'est pas en équilibre chimique, parce que la vie crée un déséquilibre. Et donc, ça se traduit par certains marqueurs dans l'atmosphère, comme on peut le voir ici. Je n'entrerai pas dans les détails, je pense que vous avez eu des conférences là-dessus, ou si vous n'avez pas eu, vous en aurez certainement. C'est tout un champ de recherche très intéressant. Ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est que ce but scientifique fixe le diamètre du télescope à 40 mètres, en gros 39-40 mètres. On n'est pas à 1 mètre près. Mais si on descend en dessous, on n'aura pas la résolution pour atteindre confortablement la zone habitable. Donc, cette zone bleu clair ici. Cela pose une contrainte absolument énorme en termes de perfection des optiques, comme je vous le montrerai un peu plus tard, parce que la perfection des optiques a un effet immédiat sur le contraste qu'on peut obtenir, sur la qualité de l'image produite par le télescope. Et ensuite, je vous en ai déjà parlé, il faut une correction de la turbulence quasiment parfaite. Donc ce but scientifique est effectivement moteur pour beaucoup des spécifications très, très, très difficiles posées sur ce projet. Alors, il faut bien comprendre, j'ai mis là juste un point dans une galaxie qui pourrait ressembler à la nôtre. Alors, ce point est censé représenter là où on se trouve. Dans la recherche des exoplanètes, il faut bien quand même garder en tête que la zone qu'on va pouvoir étudier est en réalité extrêmement proche de la Terre, quelques dizaines d'années-lumière, pas plus. Avec l'ELT, on ne sera pas capable d'aller regarder dans toute la galaxie, mais juste dans une toute petite zone autour de nous. Mais c'est déjà un pas énorme. Il faut bien comprendre que le pas que cela représente, l'ELT, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, va nous permettre de nous poser scientifiquement cette question de pouvoir chercher la vie ailleurs. Ça, c'est absolument extraordinaire. On n'a pas pu le faire auparavant. Éloignons-nous un petit peu. Alors, tout à l'heure, Daniel a parlé de trous noirs. Cette année, d'autant plus avec le prix Nobel de physique sur les trous noirs au centre de notre galaxie, je ne pouvais pas ne pas en parler. Les trous noirs, bien sûr, vont être aussi au centre de notre attention. Et alors, en termes de contraintes sur le télescope, ce but scientifique a un rôle bien particulier parce que ce qu'on cherche à faire quand on étudie, entre autres, le trou noir au centre de notre galaxie, c'est de mesurer de façon ultra précise la position des étoiles qui tournent autour du trou noir au centre de notre galaxie. Alors, on essaye d'atteindre avec l'ELT et avec un de ces instruments qui s'appelle Mikado la possibilité d'enregistrer des mouvements de l'ordre de la microseconde d'arc. Une microseconde d'arc, pour continuer l'image que j'ai utilisée tout à l'heure, quand on se place à 200 km d'un objet, ça correspond à environ 1 mm. Donc être capable de mesurer un objet qui bouge d'un millimètre vu à 200 km de distance. C'est ça que ça représente. C'est extrêmement contraignant en termes de design, de mécanique et d'optique au niveau de la stabilisation de l'image et du contrôle des vibrations, par exemple. Alors maintenant, si on s'éloigne un petit peu plus, vous voyez cette image, l'image de l'amas Virgo, qui est en gros hein, aux amas, tout dans, je dirais, dans l'univers, dans notre environnement immédiat. L'ELT va s'attaquer évidemment aux grandes questions sur la formation des galaxies. Et ce que va nous permettre l'ELT, qu'on était totalement incapable de faire jusqu'à présent, c'est de résoudre des galaxies en étoiles individuelles jusqu'à l'amas de Virgo, 65 millions d'années-lumière quand même. Et je voulais montrer ce diagramme que vous voyez ici. En fait, vous pouvez vous concentrer sur juste la première ligne. C'est une comparaison entre ce que le télescope spatial de Hubble, avec son instrument WPIC 3, sur un champ comme ça, d'une galaxie dans Virgo. Bon, évidemment, avec le HST, qui est un télescope de 2,40 m, donc, n'a pas la résolution pour résoudre en étoile. Le JWST qui sera lancé en fin d'année prochaine avec son instrument NIRCam, voilà ce qu'il sera capable de voir, donc distinguer quelques-unes des étoiles les plus brillantes, mais finalement l'essentiel du signal sera perdu dans un fond par manque de résolution. Le télescope fait 6,50 m de diamètre. L'ELT va nous permettre de résoudre des densités d'étoiles telles que 10 puissance 6, du million d'étoiles par seconde d'arc. Pourquoi c'est important? Parce que cela va nous permettre d'étudier l'histoire de formation d'étoiles. Quand est-ce que ces galaxies ont formé plus d'étoiles, si elles ont plusieurs populations d'étoiles, d'étudier la composition chimique de ces étoiles. Alors, je tenais à vous montrer ça pour une comparaison avec les télescopes spatiaux, je tiens à dire que ça ne doit en rien dire que le JWST qui n'est pas encore lancé est un mauvais télescope. Non, il a des points forts qui sont très différents de celui de l'ELT. Il a des buts scientifiques principaux qui sont assez différents. Je pourrai en parler, si vous voulez, un peu plus tard. Une chose qui est très, très importante, c'est que le JWST, par exemple, étant dans l'espace, va aller à des longueurs d'onde beaucoup plus grandes dans l'infrarouge lointain, ce que l'ELT ne va pas du tout faire. Alors, si on s'attaque maintenant à l'univers encore plus lointain, à la formation des premières galaxies, l'ELT ne sera évidemment pas en reste, et on va pouvoir s'attaquer, donc vous voyez dans l'image de fond, c'est l'image du Ultra Deep Field fait par le télescope de Hubble. Ce que l'ELT va permettre, c'est d'étudier exactement comment se forment les galaxies. Il va permettre de résoudre les amas d'étoiles en formation dans ces galaxies, dans les premières galaxies qui se forment. Il va pouvoir permettre d'étudier donc les flambées de formation d'étoiles, leurs effets sur le milieu interstellaire, parce que les étoiles se forment, il y a des supernovas qui injectent une quantité énorme d'énergie dans le milieu interstellaire, qui stoppent la formation d'étoiles, donc il y a des processus de régulation que nous ne comprenons pas à l'heure actuelle, et que l'ELT, avec sa résolution et sa sensibilité, vont nous permettre d'attaquer. Alors, ce but scientifique, l'univers très lointain, apporte des contraintes d'un autre type, et des contraintes essentiellement sur le type d'optique adaptative. Ça va nous pousser à faire de la tomographie de l'atmosphère, c'est-à-dire de mesurer la turbulence de l'atmosphère, non pas dans une seule direction, mais de faire vraiment une reconstruction de l'atmosphère en trois dimensions. Et la raison pour ça, c'est qu'il nous faut du champ, corriger un champ important pour observer des objets dans plusieurs directions. Et il faut aussi pouvoir observer des objets là où il n'y a pas d'étoiles brillantes, là où les astrophysiciens extragalactiques qui étudient l'univers lointain, comme moi, en général évitent de pointer les télescopes là où il y a des étoiles brillantes, ce qui a priori empêche de faire de l'optique adaptative. Heureusement, maintenant on a un système nouveau qui est d'ailleurs en fonctionnement dans la plupart des grands télescopes de 8-10 mètres qui sont des systèmes à laser et notamment les systèmes tomographiques. Donc là, c'est vraiment l'optique adaptative grand champ qui est poussée par ce but scientifique. Alors, avant de passer à la construction même du télescope et les détails du télescope lui-même, il est important de dire que là, j'ai parlé de but scientifique que nous avons formulé clairement, qui nous ont aidé à dimensionner le télescope, mais il est important de voir qu'avec l'ELT, on élargit énormément l'espace des paramètres. En fait, c'est vraiment considérable, comme je pense que vous l'avez vu. Et donc, c'est impossible, par définition, de quantifier et de deviner les progrès qu'on fera. À chaque fois que la technologie fait des bons, les découvertes font des bons, on a des surprises en général. Le télescope de Hubble nous a apporté énormément de surprises, le VLT nous en a apporté, nous devons être prêts à toutes les surprises. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que c'est important aussi dans le design du télescope, parce qu'il faut qu'on garde ça en tête en permanence. Nous ne devons pas trop spécialiser le télescope, ne pas pousser uniquement dans une direction. Sinon, on diminuerait le potentiel de découverte. Donc, une difficulté, c'est éviter l'hyperspécialisation du télescope et de ses instruments. Alors, attaquons-nous maintenant à la construction de l'ELT. On doit revenir à la dure réalité des choses. Le télescope n'est pas encore construit. Il est en construction. Alors, dans les minutes qui suivent, je vais vous montrer beaucoup de morceaux de télescope, parce que la construction, comme vous allez le voir, est bien avancée. Je vais vous expliquer d'abord le design, globalement, dans ces grandes lignes. J'ai essayé de vous montrer un peu les difficultés, les challenges des différents éléments et de vous montrer des morceaux du télescope et de vous donner une idée de l'état de l'avancement de la construction. Alors, le site, d'abord, le site Tiro Armazones. Alors, c'est un site qui est au Chili, vous voyez, là. Ici, c'est donc près de la ville d'Antofagasta, à 2000 km au nord de Santiago. Le télescope est sur une montagne qui se trouve en fait à 23 km à vol d'oiseau du VLT. Donc, pas très loin, un site qu'on connaît bien, à une altitude de un peu plus de 3000 mètres. Alors le site, comme j'ai dit, nous connaissons bien. Essentiellement, toutes les nuits sont claires, 360 nuits claires, une atmosphère extrêmement stable. Un point très important qui a été aussi à la source pour choisir à nouveau le Chili pour le LT, parce que le site est extrêmement sec et ça, c'est extrêmement important pour toutes les observations dans l'infrarouge. Parce que dans l'infrarouge, toujours je reviens à la même idée, il y a beaucoup de raies d'absorption, de marqueurs qui vont être très très intéressants pour la découverte, et même essentiels pour la découverte de biomarqueurs dans les atmosphères de planètes. Donc c'est très important d'être dans un lieu extrêmement sec. Faible pollution lumineuse, bien sûr, le site est loin de toute grande ville. Un point qui a été très important, il est proche du VLT et de toute son infrastructure. Ça permet de réduire les coûts énormément, et c'est important de le dire. Si on avait dû construire le télescope dans un site complètement différent, ça aurait été beaucoup plus coûteux. Enfin, un point qui n'est pas un point positif, mais qui est un point très important dans la construction du télescope, c'est la forte activité sismique proche de la cordillère des Andes.
Et le vent aussi, je crois. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de vent.
Je vais parler du vent après. Oui, le vent est très important. Oui, alors le vent, alors je peux vous dire une chose. Le vent, bah oui, quand on cherche à mettre un grand télescope en service, en général, on cherche les montagnes les plus hautes, dégagées. On ne veut surtout pas, par exemple, une raison, on ne veut pas se retrouver dans les cascades de turbulences dues à d'autres sommets plus élevés autour. Donc on va chercher un endroit isolé. Par définition, les endroits isolés sont ventus. Il y a peu de télescopes qui ne sont pas dans des endroits isolés. Alors, la structure elle-même du télescope, on peut voir ici, c'est une monture classique pour les grands télescopes, on va dire. C'est une monture alt-azimut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le télescope tourne ici sur sa plateforme et monte de haut en bas. C'est un peu par opposition aux montures équatoriales qui sont alignées avec l'axe de rotation de la Terre. Non, là, il n'en est rien. On a des axes qui sont perpendiculaire et parallèle au sol. La structure principale, comme je l'ai dit, fait 3400 tonnes, 3400 tonnes en mouvement, qui soutiennent 700 tonnes d'optomécanique et d'électronique. L'ensemble du télescope est sur des roulements hydrostatiques, donc sur un bain de vide, pour avoir un mouvement parfaitement doux, sans aucun à-coup, pour avoir un suivi parfait. Le télescope aura une précision de pointage de 0,3 secondes d'arc. Alors, pour revenir à l'image que j'ai utilisée tout à l'heure, 0,3 secondes d'arc avec une structure de 3400 tonnes, c'est remarquable. Ça veut dire être capable de pointer un objet avec une précision de 30 cm à 200 km. Et non seulement il faut être capable de le faire, avec précision, mais en plus, il faut le faire vite. Parce que la minute d'observation au télescope coûte cher, très cher. Et donc, on a une contrainte d'environ 5 minutes pour tout nouveau pointage, ce qui est remarquable.
Excuse-moi, je te coupe, tu as dit que c'était cher le temps de... Je me souviens que quand on travaillait aux 5 mètres du Mont Palomar, ça valait à peu près 1 dollar par seconde.
Alors pour le LT, je ne le connais pas. Ce que je peux dire, ce que je connais, c'est le coût des opérations par an. Le coût des opérations, c'est 50 millions par an.
Bon, il y a 30 millions de secondes par an, donc ça donne à peu près 8.
Oui, mais c'est pas, oui, mais c'est pas toute l'histoire, parce qu'il y a le coût d'amortissement du télescope, etc. L'entretien, enfin, il y a d'autres effets. Mais oui, c'est cher. C'est cher. Alors, je pourrais chercher si vous voulez plus tard, t'en répondre dans le chat un peu plus tard, si certains veulent savoir. Voilà. Quelque chose qui est important de voir dans ce télescope, c'est que toutes les unités optomécaniques sont capables de se réaligner, de se focaliser, de se déformer pour compenser les perturbations externes. Et donc là, on en arrive au vent fort. Vous imaginez bien que le vent sur une structure de cette taille a des effets majeurs. Des effets aussi de température, tout changement de température déforme le métal, les optiques. Et donc, il faut pouvoir compenser en temps réel de ça. Et aussi de la gravité. Bon, ce n'est pas la gravité qui varie, c'est le télescope qui tourne. Et donc ça déforme toute la structure qui va apporter les miroirs primaires, les miroirs secondaires, etc., etc. Et donc, tout cela, il faut absolument le compenser en temps réel. Je vais vous montrer comment dans les minutes qui suivent. Donc, au foyer du télescope, ici, il y a des systèmes qui mesurent en temps réel, c'est-à-dire 500 fois par seconde, l'état du télescope et les perturbations externes. Il envoie un système de contrôle des commandes déduites des observations des étoiles pour commander tous les actionneurs derrière les optiques pour garantir une qualité d'image en toutes circonstances, même avec du vent. Même quand la température varie, même quand le télescope bouge assez rapidement, pour garder la qualité d'image que nous sommes fixés, c'est-à-dire être capable d'avoir des images limitées par la diffraction, comme je l'ai dit avant. Alors bien sûr, alors je dis bien sûr, mais c'est pas, je ne devrais pas dire bien sûr. Le télescope a un dôme qui le protège des intempéries. Alors je dis, je ne peux pas dire bien sûr parce que à l'origine, au tout début du projet du télescope, on avait pensé avoir une couverture glissante donc qui ne resterait pas sur le télescope. Mais finalement, on s'est rendu sur un design plus classique, donc de coupole presque normale, j'allais dire, à part sa taille, comme je l'ai déjà dit, 115 mètres de haut, 80, de base, 80 mètres de haut et 6 000 tonnes. 6 000 tonnes qui bougent. Qui doivent bouger avec le télescope à la même vitesse, parce que sinon, évidemment, on obstrue la pupille du télescope.
C'est le vent, c'est les considérations liées au vent qui ont fait opter pour la coupole plutôt qu'un hangar glissant.
J'y viens dans une seconde. Dans une seconde, tu vas anticiper. Donc, le dôme, il protège du vent. Alors, je finis ma phrase, il protège du vent. Avec un écran qui est déployé comme nécessaire, mais surtout, donc tu m'as anticipé ma présentation, le dôme permet de contrôler la circulation de l'air, en fait. Et il a un rôle très important. Il a donc alors là, vous voyez une maquette, il a sur les bords, il y a en fait des tas d'ouvertures qui s'ouvrent automatiquement. Et vous voyez ici, donc sur cette image, les tests d'une maquette du dôme de l'ELT en soufflerie. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est de créer de la turbulence. Et donc, on fait en sorte qu'il y ait un flot, que le télescope soit protégé, mais qu'on garde un flot laminaire pour ne pas avoir de turbulence devant le télescope, bien sûr. Donc, le dôme, ce n'est pas juste une énorme structure d'acier lourde et imposante. Non, c'est une petite merveille de dynamique en fait, bon, de résistance aussi évidemment, mais aussi de contrôle des flux. Un rôle vraiment fondamental. Alors, je voulais vous dire au passage que certains collègues avec le projet concurrent, enfin un des projets concurrents de TMT, le télescope de 30 mètres, ont fait des choix radicalement différents. Ça, c'est le dôme du télescope TMT. Ça n'a rien à voir. Alors, je ne sais pas qui a raison. Il y a beaucoup de débats, on verra bien. Peut-être que personne n'a raison, peut-être que personne n'a tort. L'avenir nous le dira. Venons-en maintenant à l'optomécanique, c'est-à-dire la combinaison des optiques et des mécaniques. Alors, j'essaie de vous expliquer un petit peu le design de ce télescope. Alors, c'est plus simple qu'il n'y paraît. C'est un télescope qui a cinq miroirs. C'est plus que les miroirs, les télescopes de 8-10 mètres que nous connaissons actuellement. C'est aussi plus que les projets concurrents. On a fait des choix différents, essentiellement pour des raisons d'optique adaptative. Alors, en fait, le design a cinq miroirs et se décompose en deux parties. D'abord, il y a une partie que je dirais plutôt classique, qui est ce qu'on appelle un anastigmate à trois miroirs. Le miroir principal, vraiment, je reviendrai après, presque une paraboloïde. Juste avec une parabole, on aurait essentiellement pas de chance, focalisé en un seul point. Si on était hors champ, alors les images seraient floues. Donc pour avoir du champ, il faut avoir plus qu'un miroir. Et c'est ce que l'on fait avec les miroirs M2 et M3, sans entrer dans les détails. Ensuite, on a deux autres miroirs, M4 et M5, qui ont chacun un rôle très particulier que j'expliquerai dans quelques minutes. M4, c'est un miroir adaptatif, M5, c'est un miroir de stabilisation. C'est les deux miroirs qui nous permettent de corriger des effets de l'atmosphère, des aberrations résiduelles du télescope, des vibrations du haut vent et aux vibrations de la structure en général. Donc voilà, un design particulier qui intègre pleinement l'optique adaptative. Alors, un peu plus en détail pour que personne ne se perde, si je vous explique le trajet de la lumière, donc si la lumière arrive d'une étoile, alors j'ai pris au hasard une étoile de type solaire, hein, jaune, vous avez remarqué, qui va d'abord frapper le miroir M1, le miroir de 39 mètres. Ensuite, la lumière est réfléchie, elle arrive sur le M2, tout en haut, le M2 qui est un miroir de 4 mètres 20, que je vous montrerai tout à l'heure, qui existe déjà. La lumière est ensuite envoyée au miroir M3, qui se trouve essentiellement à l'intérieur du miroir M1, et elle passe à travers le miroir M4. Alors, pour ceux qui ont observé ici, il y a en réalité, un foyer intermédiaire. Je n'en reparlerai pas, mais ça peut avoir son importance dans le futur. Et ensuite, après le miroir M3, la lumière est envoyée sur le miroir adaptatif M4, qui lui est un miroir plan. Ensuite, sur le miroir M5, qui est aussi un miroir plan, mais qui bouge. Et ensuite, la lumière est envoyée sur la plateforme où vont se trouver d'une part, ce qu'on appelle la station préfocale, là où on a l'essenseur qui regarde des étoiles dans le champ périphérique pour analyser les défauts et envoyer les corrections aux différents miroirs, et d'autre part, sur la plateforme, les instruments scientifiques. Alors, le miroir primaire M1, ce fameux miroir de 39 mètres de diamètre, il est impossible de faire un miroir de 39 mètres monolithique. Déjà à 8 mètres, c'est difficile. Pour les télescopes actuels de 10 mètres, comme le Keck, l'option de miroir segmenté avait déjà été choisie. Pour le LT, on n'avait absolument pas le choix. Donc ce miroir est composé de 798 segments qui sont quasiment hexagonaux. Ce miroir, comme je l'ai déjà dit, est un paraboloïde. J'ai mis sa constante conique pour ceux qui se souviennent de leur cours de mathématiques, c'est presque moins 1, moins 0,9965, presque une parabole parfaite. Pour la construction et pour se simplifier la vie, on exploite le fait qu'on a une symétrie d'ordre 6. Donc, pour construire ce télescope, on va en fait construire 6 familles identiques de 133 segments. Alors, je dis 6. Je mens un peu, en fait c'est 6 plus 1, on va construire 7 secteurs, mais n'en utiliser que 6. Et la raison pour laquelle on construit un jeu de télescope, de miroir, de segment en plus, c'est pour permettre d'échanger des segments tous les jours pour entretenir le miroir, pour refaire son aluminisation, pour les nettoyer et refaire l'aluminisation. Donc ces segments seront, le miroir sera en permanence maintenu dans un état optimal grâce au fait qu'on va pouvoir changer les segments 2 par jour et les remettre au propre avec une nouvelle surface réfléchissante. Donc, on va produire 931 segments. Dans chaque famille de 133 segments, il faut bien comprendre que les 133 segments sont tous différents, ils ont tous une forme légèrement différente pour pouvoir créer la forme de la parabole parfaite. Alors, la construction des segments en soi, c'est déjà toute une aventure. Alors, chaque segment fait 1,40 m, ce qui est déjà pas petit. Ces segments sont en céramique zéro dur, comme presque tous les miroirs, sauf un dans le télescope, la propriété de céramique, qui est aussi utilisée pour le VLT d'ailleurs, et d'avoir un coefficient d'expansion thermique très faible, c'est-à-dire que quand la température change, ce verre se déforme très très peu. Donc, les segments, donc, comme je vais vous montrer là, je vais vous montrer les images, donc ils sont coulés en Allemagne, chez Schott. Donc ici, on voit plusieurs bâches qui sont en train d'être coulées. Ils sont ensuite refroidis, mis en boîte par groupe de 5 ou 6, je pense, je ne sais plus exactement.
Est-ce qu'ils sont refroidis ou est-ce qu'ils sont réchauffés?
Là, ils sont refroidis, là, avant de les transporter.
Oui, oui, mais je veux dire, il faut freiner le refroidissement, en fait.
Ah ouais, pour la céramique, c'est un peu... Il y a tout un processus de variation de la température en fonction du temps pour que le miroir n'ait pas de bulles, pas de fente, etc. etc. Donc, c'est tout un processus... vous pourrez... Plus tard, au moment des questions, c'est spoiler alerte, attention, ma femme sera là et elle s'occupe aussi de certains des miroirs de LT, elle pourra certainement répondre à votre question. Alors, il faut garder la question pour un peu plus tard. Voilà, donc ces segments, une fois qu'ils sont justement refroidis, mis en boîte, ils sont transportés en France, à Poitiers, où ils vont être polis, comme vous le voyez ici, c'est le polissage. Ensuite, ils sont découpés en forme hexagonale. Ensuite, étape importante, on les accroche à leur monture. Alors, la monture, vous pouvez en parler un petit peu après, mais il est important de les accrocher à leur monture avant de finir le polissage, parce que accrocher la monture, ça déforme légèrement les segments. Donc, pour avoir une forme absolument parfaite, on monte les segments sur la monture, et ensuite, par usinage ionique, on termine le polissage pour atteindre une précision de 15 nanomètres. Bon, c'est environ une perfection de l'ordre du 50e de l'épaisseur d'un cheveu. Alors, pour fabriquer autant de segments, il a fallu penser à un processus bien particulier, il a fallu construire une usine dédiée de 4 mm² avec toutes les machines nécessaires. Et à plein régime, cette usine va produire un segment par jour. Alors, pour l'instant, on est en train de construire les premiers segments. Et à partir de l'année prochaine, on va atteindre la pleine production jusqu'environ en 2025 pour construire les 900 segments. Alors, une partie extrêmement importante de ce miroir M1, c'est le support et les actuateurs de ces segments. Ils sont supportés par une mécanique à balancier en 27 points, fabriquée spécialement pour minimiser les déformations et pour pouvoir aussi compenser des déformations dues à la gravité, etc., lorsque le télescope bouge. C'est une monture extrêmement complexe. Et peut-être un des éléments les plus fascinants, ce sont les actuateurs derrière les miroirs qui vont positionner de façon ultra précise chacun des segments, le but étant que les 798 segments forment une paraboloïde absolument parfaite. Et la précision de positionnement de ces segments, avec de ces actuateurs, est de l'ordre de 2 nanomètres. Donc, on a 798 segments et chaque positionneur les positionne avec une précision d'environ 2 nanomètres, c'est-à-dire 1/500 de cheveux. Et cela, quelle que soit la position du télescope sur le ciel, qui regarde en haut, sur le côté, à n'importe quelle élévation, et aussi dans n'importe quelle condition, pas n'importe quelle, mais dans des conditions de vent assez drastiques. Alors, je voulais vous donner une petite image pour se faire une idée de la précision de ces actionneurs derrière les miroirs. Donc, si on imagine que un actionneur était un train sur une ligne de 10 km, dans laquelle il fait juste des allers-retours. L'actionneur doit être aussi rapide qu'un TGV, donc 88 mètres par seconde. Il doit être capable d'être aussi lent que le plus lent des escargots, plus lent même que le plus lent des escargots, à 2,8 mm par seconde. Et il doit bouger avec une précision de 2 mm sur 10 km. C'est difficile à se représenter, mais c'est absolument nécessaire pour pouvoir avoir une image à la limite des diffractions capable de détecter des planètes dans la zone habitable. Alors, les miroirs M2 et M3, eux aussi sont des miroirs qui existent déjà. Ceux-là, ils ont déjà été coulés par Schott. Ils sont aussi en zéro dur, en céramique, tous les deux de 4 mètres de diamètre. Celui qui est certainement le plus étonnant, c'est le M2 que vous voyez ici. M2, c'est un miroir qui était très complexe à fabriquer, c'est complexe aussi à polir. C'est le plus grand miroir convexe jamais fabriqué. Il est très asphérique, il a F1.1 pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire. C'est très compliqué. Et donc ces miroirs sont maintenant en cours de polissage.
C'est le Réos qui polie ?
Oui.
Tous les miroirs ou simplement celui-là ?
Tous les miroirs. Alors, maintenant, on attaque la partie adaptative du télescope avec le miroir déformable M4. J'aime bien penser à M4 comme étant le cœur du télescope. Sans le M4, le télescope ne sera pas capable d'avoir la qualité d'image que l'on souhaite. Le M4, il est là pour corriger la turbulence atmosphérique, mais aussi des aberrations résiduelles du télescope. Alors c'est un miroir assez extraordinaire, c'est un miroir plan, jusque-là rien de particulier, de 2,45 m de diamètre, mais en réalité c'est une membrane, aussi en 0,2, de seulement 2 mm d'épaisseur, partagée en 6 pétales, et cette membrane est en lévitation magnétique, supportée par 5362 actuateurs pour le déformer 1000 fois par seconde, pour pouvoir compenser donc des aberrations du télescope résiduel, mais aussi de la turbulence de l'atmosphère. Ce miroir aussi est en cours de construction. Ici, vous voyez un des pétales en cours d'inspection chez Safran. Là, vous voyez un pétale avec sur la face arrière des milliers de petits aimants qui vont être utilisés pour la lévitation magnétique. Alors, on précise que ça prend de mettre tous ces aimants qui sont mis positionnés précisément à la main, ça prend 2 à 3 semaines pour chacun. Et un élément très important aussi, pour donner sa forme à ce miroir, pour maintenir, avoir une référence, il y a ce qu'on appelle une surface de référence en carbure de silicium, fabriquée par Gustav, qui elle aussi est déjà fabriquée, que vous voyez ici, en cours d'inspection. Un autre miroir, non moins fascinant, c'est le miroir M5. Il est là pour corriger des vibrations dues au vent et des mouvements dus au mécanisme du télescope, éventuellement des vibrations résiduelles. Alors ce télescope, ce miroir, est un miroir elliptique, plan, de forme elliptique, de 2,7 sur 2,2. Ce qui est particulier, c'est que vu que c'est un miroir vibrant qui va vibrer 10 fois par seconde, donc à 10 Hz, pour compenser cette vibration, il a une structure hyper allégée, il pèse seulement 440 kg, il est en carbure de silicium, et dessus, il a une couche réflective aussi en carbure de silicium déposée en phase vapeur, ce qui est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Alors, vous voyez ici 4 des 6 pétales de ce miroir M5 qui ont été construites. Enfin, je suis obligé de vous parler des lasers, je les ai évoqués tout à l'heure. Comme je disais, pour pouvoir analyser la turbulence de l'atmosphère, on utilise en principe des étoiles, mais quand on va aller chercher dans des champs où il n'y a pas d'étoiles brillantes, comme on cherche notamment dès qu'on observe des galaxies lointaines, on est obligé de créer des étoiles artificielles. Alors je vous rassure, créer des étoiles artificielles, ce n'est pas pour se causer des problèmes. Ces étoiles artificielles sont créées en excitant des atomes de la couche de sodium avec des lasers, et ces étoiles brillent à une longueur d'onde bien précise, à 589 nanomètres. Donc, si on cache, on va dire, cette bande de longueur d'onde, le ciel reste parfaitement sombre en dehors de cette longueur d'onde-là, donc ça ne cause aucun problème. Donc, ces sources laser, il n'y a pas juste un laser, il y a aussi avec un télescope, un petit télescope pour protéger le faisceau. Alors je ne pouvais pas résister, vous montrer le VLT. Le VLT utilise déjà exactement les mêmes lasers. Et là vous voyez le télescope VLT UT4 sur lequel on a 4 lasers déjà identiques à ceux qui sont sur le LT en fonctionnement. Je mets bien le parallèle entre ces deux images finalement, une sorte de voir la même chose, mais en vrai, pour le LT. Alors, l'histoire n'est pas complètement terminée. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu. Comme je vous ai montré tout à l'heure, donc la lumière fait M1, M2, M3, M4, M5, et ensuite, elle arrive à la station préfocale. La station préfocale est extrêmement importante. À l'intérieur de cette station, ce que vous voyez ici, c'est 3 bras. Trois bras qui permettent, dans le champ périphérique du champ scientifique, d'observer des étoiles en analysant la forme de ces étoiles dans nos analyseurs de fond d'onde. On est capable d'envoyer ces images à un calculateur temps réel qui va convertir ces données en action sur tous les actionneurs dont je vous ai parlé, donc sur le M1, sur le M4 et le M5 pour garantir une qualité d'image en permanence parfaite. Voilà. Enfin, la plateforme est gigantesque. Elle fait 29 mètres de long, mais là, vous la voyez vide. Alors évidemment, elle ne va pas rester vide très longtemps. Ce qu'on va trouver sur cette plateforme, ce sont les instruments. Pour vous rendre compte un peu de la taille, sur cette plateforme, vous pourrez y mettre un VLT entier. Ça donne une idée de la taille. Voilà. Donc, on va bien sûr pas y mettre un VLT. On va y mettre nos instruments. Alors, je vous montre ici une image CAD, comme on dirait brute, vraiment brute. Ça représente tous les instruments de première génération quand ils vont être posés sur la plateforme. Ils vont complètement remplir l'espace. Chacun de ces instruments fait 30-40 tonnes, équipés de systèmes d'optique adaptative poussés. Je ne vais pas les décrire aujourd'hui. Je peux, si vous voulez, faire une liste des instruments, mais je ne vais pas rentrer en détail. Alors, simplement pour les lister, on aura un spectre intégral de champ qui s'appelle Harmony, c'est-à-dire un spectrographe qui prend des images à chaque longueur d'onde, en infrarouge moyen, qui serait équipé d'une ce qu'on appelle une LTAO, c'est une optique adaptative tomographique qui s'appelle Harmony, qui est l'instrument sur lequel je travaille. Un imageur infrarouge à haute résolution équipé d'une optique adaptative qu'on appelle multiconjuguée pour avoir un grand champ corrigé, tel Maori Mikado. Ensuite, il y a un imageur et spectrographe d'infrarouge moyen qui aura une optique adaptative un peu plus simple, qui s'appelle la Métis. Et un peu plus tard, il y aura un spectrographe multi-objet, juste pour faire de la cosmologie, avec, qui s'appelle Mosaic, qui est actuellement en état de projet, ainsi qu'un spectrographe infrarouge à très haute résolution spectrale, ARS, qui devrait justement lui permettre de faire le spectre de planètes potentiellement avec capable de découvrir des signes de vie. Voilà, et donc je vais terminer et laisser la place aux questions en vous montrant cette image qui vous montre le site, l'état actuellement du site qui est en construction. Vous voyez ici les fondations avec, sur lesquelles le télescope lui-même sera posé. Et alors, en fait, c'est la photo pas tout à fait récente, mais cette structure est complètement terminée. Mais actuellement, les travaux sont arrêtés pour cause de confinement, mais nous espérons qu'ils vont reprendre très bientôt, bien sûr, dès que les conditions le permettront. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. C'est vraiment fascinant, hein, ce type de projet. D'abord parce que ça se fabrique sur des années. Hein, je crois que ça a commencé il y a combien de temps déjà? 5-6 ans?
Alors, ce qu'on a commencé à faire, alors c'est plus long que ça, parce qu'il a fallu, il a fallu choisir le site, par exemple.
Oui, oui.
Choisir le site, donc il y a eu ça, toutes les phases de design. La construction elle-même, on a commencé par faire, en fait, les premiers contrats qu'on a fait, c'est pour la fabrication du miroir adaptatif M4.
Ouais. Il a fallu faire une route, est-ce qu'il a fallu niveler le sommet, il a fallu faire des choses comme ça.
Il a fallu faire rendre plat le sommet de la montagne, vous voyez. Bien sûr, il a fallu niveler.
Donc ça a commencé vraiment il y a combien, 4-5 ans?
En 2014.
Sur le M4, là, c'est celui que tu as décrit comme étant le déformable. C'est une membrane, tu as décrit ça comme ça, de 2 mm d'épaisseur, c'est extraordinaire.
Un peu moins même.
Hein, qui fait 2,45 m de diamètre, donc on imagine ça. Alors, tu dis qu'il est en lévitation, mais tu dis que sa déformation est contrôlée par des actuateurs. Alors, comment ils agissent, ces actuateurs? Parce que s'il est en lévitation, qu'est-ce qui peut le toucher?
On fait varier un champ magnétique, on met des éléments dans un champ magnétique variable.
Voilà.
Donc, ça les fait bouger très vite.
Donc, les actuateurs ne le touchent pas, c'est simplement par effet magnétique.
Bon, il y a un vide, de l'air entre les deux.
Quelle est l'épaisseur entre l'actuateur magnétique et la... C'est très très près, j'imagine.
Moi, je ne le sais pas, mais si ma femme apparaît, elle vous le dira.
D'accord. Non, mais enfin, on imagine, c'est extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qui plane complètement, ce miroir.
Alors, évidemment, ça pose des difficultés. Il faut évidemment aucun moment qu'il tombe. C'est des coupures de courant, il ne faut pas qu'il tombe, évidemment. 100 microns. Et tu peux venir. 100 microns.
Il y a combien d'actuateurs en tout?
J'ai dit 5300.
Ah oui, 5300 actuateurs, c'est ça. Alors, je me souviens que pour le VLT, il y avait aussi un nombre important d'actuateurs sous chaque miroir. Il y a 4 miroirs.
Différents.
C'est évidemment un autre type d'actuateur, c'était des piezos, si je me souviens bien. Et il me semblait que c'était l'armée qui avait fait ça. C'était la GIAT qui était spécialiste dans les tourelles de chars.
Ce qu'il avait fait pour le VLT, cette fois-ci, hein, donc rien à voir avec le VLT, c'est basé sur les actuateurs des canons des chars Leclerc.
Voilà, c'est ça. Et donc, ma question, est-ce que l'armée, la technologie militaire, intervient, dans ce projet?
Certainement, certainement, dans certains processus de construction qui d'ailleurs ne nous sont pas communiqués. On ne sait pas tout, en fait.
D'accord. Bon, je vais regarder, il y a eu quelques questions que je pourrais relayer. Quelqu'un demandait combien de personnes étaient affectées à l'opération. Enfin, bon, on peut imaginer, ça ne marche pas encore, mais quand ce sera opérationnel, on peut imaginer combien de gens sur le site.
Alors, pour les opérations, le chiffre exact,
On
je
ne
sais
sait
qu'il y a
pas.
des plans, mais le chiffre exact, je le connais pas. En permanence, à Paranal, les opérations de l'ELT seront faites depuis la même salle de contrôle et par les mêmes personnes que le VLT.
Ah, donc les opérations se feront
Du même endroit, de la même
sur le
salle de
site de
contrôle.
Paranal, d'accord.
Tout à fait. Alors,
Donc il n'y aura personne sur le site, sauf les gens qui
pour la
sont.
maintenance, mais pas
Voilà.
les personnes qui opèrent le télescope ne seront pas sur le site d'Armazones, seront sur le site de Paranal.
Donc sur le site amazonais, il y aura des gens qui s'occupent de l'électricité, du chauffage, de tous les aspects qui ne sont pas reliés directement à l'observation.
Voilà. Non, sur place. Uniquement pour ben, s'il faut intervenir dans la nuit pour réparer ceci ou cela.
D'accord. Alors, je cherche les questions. Alors, quelqu'un demandait ce qu'était un point de VDL.
Ah, VDL, VDL, c'est VDL, c'est c'est une compagnie. J'essaie de revenir si j'y arrive. Est-ce que c'était? Moi, c'est un peu compliqué. Il faut que je revienne en arrière. Donc, PDL, c'est une compagnie. Voilà. C'est une
Ah,
compagnie.
d'accord.
Hollande.
Il y avait une autre question. Alors, la plus, c'est vrai que tu dis qu'il faut ajuster tous les miroirs enfin, tous les segments, pardon, du miroir primaire, ce qui est quand même, on voit avec quelle finesse il faut faire ça. C'est-à-dire, si on pouvait passer son doigt, on ne sentirait rien. On aurait l'impression d'être sur une surface parfaitement lisse, hein,
Oui.
avec ce degré de précision.
Sauf que, quand même, les miroirs ne sont pas, ils sont disjoints, ils ne se touchent pas. Il y a
Ne touche pas.
4 mm d'épaisseur entre chaque segment.
À cause de quoi? À cause de la dilatation possible ou...
Non, il ne faut pas qu'ils se touchent en cas de, il ne faut pas qu'ils s'entrechoquent. Hein.
Oui, mais 4 mm, c'est beaucoup.
Oh, c'est difficile de faire plus près. Par exemple, il faut pouvoir par exemple, les enlever sans abîmer leurs voisins, etc. Donc il y a pas mal de contraintes quand même. Hein.
Est-ce que c'est pour éviter également les effets de bord, les effets de diffraction?
Les effets de diffraction, il y en aura. Il y en aura, on les verra sur la réponse impulsionnelle du télescope.
D'accord. Et alors la question qu'on posait, c'était comment faire pour, comment on s'arrange pour arriver à ajuster tous ces segments les uns par rapport aux autres afin d'obtenir ces... Parce que on peut imaginer une précision pour deux, mais après 3, 4, 5, 6, 800, 900.
Voilà, c'est tout ce qu'on appelle la stratégie de ce qu'on appelle le phasage du télescope. Les techniques sur lesquelles il a fallu s'entraîner de temps en temps. Alors, on a de quoi faire un phasage, des outils pour faire un phasage local quand on enlève un des segments, qu'on le remet pour mesurer quelle est sa distance, sa hauteur par rapport aux autres, ça, localement. Évidemment, on peut faire ça sur tous les segments. À l'intérieur de. Je vais vous montrer. Si je peux y revenir. Là, ici. Là. À ce niveau-là. Il y a aussi ce qu'on appelle une station de phasage, en fait. C'est une station qui permet de regarder le miroir et de les ajuster. tous les jours si nécessaire, mais par contre, de temps en temps, pour faire justement ce phasage parfait et avoir un moment, il faudra regarder une étoile.
D'accord. D'accord. Alors, quelqu'un demande, je regarde les questions. Oui, je crois que la réponse est évidente. C'est beaucoup trop grand pour pouvoir être envoyé dans l'espace, ça c'est clair. Mais est-ce que ça rejoint quand même certains projets spatiaux où on voudrait arriver à une surface collectrice assez grande, évidemment à partir de miroirs dispersés comme ça sur des kilomètres, des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers de kilomètres?
Ça c'est plus, oui, alors ça c'est pas comme le LT. C'est vrai que l'analogie c'est plutôt un interféromètre, donc c'est plutôt oui. comme le VLTI, l'interféromètre VLT, où on fait interférer la lumière de nos quatre télescopes de 8 mètres ainsi que des télescopes auxiliaires. Là, ça permet d'avoir des résolutions spatiales beaucoup plus grandes, puisqu'on permet ce qu'on appelle d'avoir des lignes de base, même avec le VLTI, l'interféromètre VLT, de l'ordre de la centaine de mètres, donc d'avoir une résolution spatiale encore meilleure, mais par contre que sur des objets très brillants pour l'instant. Alors évidemment, si on va mettre des télescopes plus grands dans l'espace, on va pouvoir faire des interféromètres gigantesques, effectivement. Il y a des projets pour dans ce sens-là. Aussi avec des coronagraphes géants et autres. Oui. Un mot peut-être sur les projets spatiaux, justement, la comparaison, on parlait tout à l'heure du JWST, il faut garder en tête par exemple la différence aussi de prix dont on parle entre un projet comme JWST qui coûte plus de 10 milliards de dollars et un télescope comme le LT qui est plutôt de l'ordre entre 1 milliard et 1 milliard et demi, donc il y a quand même une très grosse différence, il faut aussi le garder en tête quand on fait des comparaisons.
JWST, c'est combien, tu dis?
Je ne sais pas si on connaît le prix exact, mais c'est plus de 10 milliards de dollars maintenant.
Oui, c'est ça. Ouais. Et il y a aussi la durée de vie.
C'est un autre aspect. Le télescope, le LT, est prévu pour durer plusieurs dizaines d'années, 50 ans, probablement plus d'ailleurs. Un télescope tel que le JWST n'a que quelques années de temps de vie parce qu'il doit être refroidi. Et qu'on ne peut pas remplacer, on peut pas le comme on pouvait le remettre à niveau, qu'on pouvait le faire sur le télescope de Hubble, on ne peut pas le faire sur un télescope comme le JWST qui est beaucoup, beaucoup plus loin.
Quelqu'un demande s'il y a une possibilité de synchroniser l'ELT et le VLT dans certains cas.
Alors, synchroniser dans le sens de faire des observations simultanées, oui, on pourra le faire. Il n'y a rien qui nous empêche, a priori, de le faire. Après, ça dépend avec quelle précision. Si la question est-ce qu'on a prévu de faire interférer l'ELT avec l'ELT, la réponse pour l'instant est non.
Mais non, bien sûr. Et comment est alimenté sur place? C'est une question qu'on pose là. Comment c'est alimenté au niveau électricité?
Au niveau électricité, maintenant, alors avant, je reviens un petit peu historiquement, le VLT était alimenté par des générateurs diesel. On a abandonné, enfin, ça, on les a toujours d'ailleurs, mais plutôt en secours. Et maintenant, donc, on va être connecté, on est connecté au réseau électrique chilien.
D'accord. Et ça consomme beaucoup?
Beaucoup, oui. Combien? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire.
Je sais que Alma consomme énormément. Ça, c'est...
Ouais. Alors, je ne la connais pas. C'est pas des chiffres que j'ai en tête. Mais...
Et alors, au niveau maintenant d'observation du mode opératoire, est-ce qu'on ne demandera pas out? Est-ce qu'on demandera ou on ne demandera pas à l'observateur de venir sur place? Je sais que, par exemple, au VLT, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent qu'au VLT, il y a quand même encore la possibilité pour les astronomes d'aller sur place et de participer aux observations, alors que beaucoup d'autres sont programmés par des gens sur place qui, voilà, un petit peu comme le télescope Hubble, on n'a pas besoin d'être vraiment présent durant les observations. Comment ça se passera pour le ELT ?
Alors pour le ELT, a priori, un schéma plutôt identique à celui du VLT, où on demande et on demande les données et on reçoit les données, soit par, en fait, on les download par le réseau, sont directement sur les archives de l'ESO. Maintenant, on est en train d'explorer aussi des nouvelles façons. Il y a pas mal d'utilisateurs déjà qui, au lieu de même qui ont des campagnes d'observation pour lesquelles ils ont besoin, parce qu'il y a toujours, sur des observations délicates, un besoin de vérifier la qualité en permanence, en temps réel, en fait, pour décider si on continue à observer tel ou tel objet, ou si on arrête, ou si on change légèrement la configuration. C'est toujours cette possibilité-là, il faudra qu'elle reste certainement dans certains cas spécifiques avec le LT. Ça ne va pas forcément nécessiter de faire le voyage. On a des modes où les gens peuvent voir directement, même chez eux, ce qui se passe sur la console. Ils peuvent pas agir sur le télescope ou sur l'instrument, ils peuvent voir en temps réel exactement ce que l'instrument voit.
D'accord. Il y a une question aussi qui revient plusieurs fois. Dans quelle mesure les satellites Starlink vous perturbent ? Enfin, ce n'est pas vrai que pour le ELT, puis d'ici là, on ne sait pas ce qui se passera. C'est déjà vrai pour d'autres télescopes. Donc, dans quelle mesure les satellites de Musk vont nous déranger ?
Alors, il faut préciser que le
champ est petit.
Le champ, voilà, le champ de la plupart des instruments est relativement petit. Donc, il reste encore de la place. Les télescopes qui sont beaucoup plus gênés, c'est les télescopes tels que le LSST, qui est un grand télescope, très grand champ, pour faire des campagnes, des surveys de tout le ciel plusieurs fois à répétition pour voir les phénomènes qui évoluent dans le temps. Et là effectivement, il n'y a pas une seule pause qui va ne pas être affectée. Ça va être très compliqué.
Et en ce qui concerne les phénomènes parasites, évidemment, les tremblements de terre sont prévus dans la construction.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des vibrations résiduelles en permanence qui peuvent affecter les... Parce qu'il y a tout le temps des mini-tremblements de terre. Hein.
Est-ce que oui, ça, mais ça... Oui, donc ça, c'est pas très différent du VLT. C'est compensé en permanence. Le télescope, comme le VLT, le télescope va regarder en permanence des étoiles et pouvoir mesurer toute vibration résiduelle.
Oui, c'est ça.
Et corriger justement avec le miroir M5 dont on parlait, qui est capable de bouger 10 fois par seconde.
Voilà, c'est ça. Peu importe l'origine de la vibration et l'origine de la perturbation, c'est pris en compte globalement, finalement. J'ai une autre question qui est intéressante. Bon, c'est un projet européen, on le dit tout le temps, mais je ne sais pas si tout le monde se rend compte ce que ça signifie. Il y a quand même il y a une quinzaine, à peu près 15 pays européens qui sont membres de l'ESO. Est-ce que tout le monde a à peu près sa part dans la construction et l'élaboration de ce projet ELT ? Par exemple, la France, il y a REOSP qui polie, il y a l'Allemagne qui coule SHOT. Je suppose que d'autres pays interviennent, bien entendu.
Oui, bien sûr, mais ça fait partir. J'ai pas pu, évidemment, je ne pouvais pas parler... De tout ça en détail, mais vous avez, ce dont j'ai parlé, c'est les gros contrats, donc le DOM, je l'ai pas dit, mais je l'avais marqué, que le DOM et la structure principale sont fabriqués en Italie, par exemple. Ouais. L'Allemagne coule les miroirs, la France fait le polissage. Ouais.
Les Hollandais font aussi quelque chose.
Oui, vous avez vu les VDL tout à l'heure, il y a la Belgique, vous avez vu le miroir M4 lui-même est fait par, pas la membrane, mais le reste du miroir, tous les actionneurs magnétiques sont faits par une compagnie italienne. Donc voilà. Les retombées économiques sur les pays dépendent de leur contribution. Et les contributions des pays dépendent du PIB. Et on est obligé dans ce genre de projet d'équilibrer pour que chaque pays ait sa part de retour. Et ça compte dans l'attribution des contrats de nation.
Ce sera également vrai, c'est à peu près également vrai depuis le début de l'ESO d'ailleurs, pour les retombées scientifiques. C'est-à-dire que le temps, l'accès au télescope est en gros lié quand même au PIB, au nombre d'astronomes, enfin il y a des considérations comme ça. Même si un projet extraordinaire qui demanderait beaucoup de temps et qui est bien plus intéressant que tous les autres, eh bien, serait quand même accepté, quelle que soit la nationalité. Je me trompe?
Oui, les attributions de temps, oui, sont faites d'abord sur la qualité scientifique
Voilà.
des propositions. C'est important de le préciser. Ce n'est pas parce que je suis français que j'ai plus de chances d'avoir du temps. Et globalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de. Il y a, je crois que le nombre d'astronomes aussi, quelque part, corrèle pas mal avec le PIB finalement.
C'est ça, c'est
Donc, les choses. Après, je connais pas les détails, parce que ce n'est pas des détails dont on parle trop. C'est notre conseil qui s'en occupe et qui se penche sur la question régulièrement. Mais la répartition, globalement, correspond bien.
Bien, écoute, avant de te remercier pour vraiment cette présentation magnifique, parce que c'est vraiment très excitant de voir comment toute cette aventure humaine qui est derrière ces projets-là, est-ce que tu peux nous dire quand on pourra proposer une mission, là, quand est-ce qu'on
Ah, quand?
voit
Alors, ça,
qui va être mis en service, la première lumière, comme on dit.
première lumière. Alors, les temps sont incertains, comme vous le savez. Donc, en principe, donc sur notre calendrier, le télescope devrait être terminé en 2025. D'ailleurs, vous avez vu la fabrication des miroirs, tout ça, est prévu pour on prévoit que tout soit terminé en 2025. Évidemment, par exemple, en ce moment, donc avec la pandémie, par exemple, les travaux au Chili ne peuvent pas se poursuivre. On ne sait pas exactement quand et comment ça va reprendre. Donc, c'est un peu trop tôt pour donner de nouvelles dates. On s'abstient de le faire pour l'instant. On le fera quand on y verra un petit peu plus clair. Mais évidemment, ce qui se passe en ce moment affecte aussi l'avancement du télescope, c'est évident.
Mais si on fait l'attraction de cette pandémie, ce qui n'est pas rien évidemment,
C'est pas facile.
il n'y a pas eu de retard supplémentaire pour l'instant, tout fonctionnait
Si,
à
il y a
peu
eu,
près normalement.
si, donc on devait, il y a eu un an de retard qui a été annoncé, je ne sais plus exactement quand, on est passé de 2024 à 2025.
D'accord. Bon, voilà, donc on attend. Alors 2025 plus effectivement tous ces aléas.
Probablement plus dû aux aléas actuels.
Voilà.
Vous pouvez bien imaginer que mettre en pause des travaux de cette envergure et remettre la machine en route, c'est très très lourd, c'est compliqué.
Ah oui, c'est extrêmement long. Bon, bah, ça va te donner le temps d'y penser, de réfléchir au programme que tu pourras soumettre, Joël.
Tout à
Et
fait.
puis, peut-être qu'on te verra dans quelques années nous raconter un peu les premiers résultats que toi et tes collègues obtiendront.
Je l'espère.
Voilà. Bien, bah, merci encore et merci à ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et rendez-vous pour le 5 janvier. Alors, d'ici là, eh bien, il y aura. On espère beaucoup de choses qui vont se passer. On pourra sortir dans les rues plus facilement. On aura des moments de convivialité autour des fêtes de Noël et du jour de l'an. Voilà. Au revoir tout le monde et on se retrouve donc le 5 janvier. Merci Joël, encore une fois.
Un plaisir.
Au revoir.
Au revoir.